Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons un nouveau fichier sur le polycopier. Donc le fichier des derniers chapitres de l'Évangile selon Saint-Luc, chapitres 21 à 24. Nous sommes donc au début de ce fichier, page 1 de ce nouveau fichier. Commençons donc le chapitre 21, le dernier chapitre avant le commencement de la Passion, donc il restera après 22, 23 pour la Passion de notre Seigneur et 24 pour la Résurrection. Nous arrivons ainsi à la fin de l'Évangile selon Saint-Luc. Il restera encore tout l'Évangile selon Saint-Jean qui est le plus important. Ce qui fait qu'en tout, je pense qu'il n'y aura pas loin de 230 à 250 conférences sur les quatre Évangiles. Vous voyez à quel point les pères de l'Église sont riches. Donc prenons les versets 1 à 4 du chapitre 21 de Saint-Luc. Jésus, regardant, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mit deux petites pièces de monnaie. Et il dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là ont donné de leur superflu pour faire des offrandes à Dieu, mais celle-ci a donné de son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici, notre Seigneur parle donc de la nécessité de l'humilité dans les dons. Et je vous assure que cette phrase de notre Seigneur n'a pas pris une ride. Ça m'a beaucoup frappé parfois de voir, c'est assez rare, mais ça arrive. J'ai vu dans mes différentes paroisses dans lesquelles je suis passé, des personnes qui font parfois des dons importants, mais qui cachent leurs dons. Il est évident que si vous venez de mettre une pièce de 20 centimes dans le panier de quête et que votre voisin met un billet de 500 euros, évidemment, ça laisse un peu rêveur. Vous vous dites, ben celui-là, moi, il est bien généreux. Mais celui qui donne un billet de 500 euros et qui cache son billet dans une petite enveloppe, je trouve ça beau. Non pas à cause du billet de 500 euros, mais du fait qu'il ne se vante pas de ce qu'il donne. Que notre main droite ignore ce que donne la main gauche, dit notre Seigneur. Alors, ce qui est important aussi, c'est ça aussi beaucoup à comprendre, c'est que c'est la parole des pères, ce n'est pas la modicité de l'offrande, mais la richesse du cœur que Dieu considère ici. Parfois, des gens qui donnent des toutes petites sommes, mais qui font un gros effort et qui sont certainement qui pèsent beaucoup plus au bon Dieu que des gens qui donnent beaucoup et qui peuvent vous donner beaucoup. Je me rappellerai toute ma vie, c'est arrivé une fois aux États-Unis, un enfant qui vient me voir après la messe et qui me remet une enveloppe. Il me dit, monsieur l'abbé, je sais que vous avez des factures à payer, c'est mes parents qui me l'ont dit. Alors, j'ai cassé ma tirelire et je vous donne ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas beaucoup, mais je vous le donne, monsieur l'abbé. J'ai ouvert l'enveloppe, il y avait l'équivalent de 2,25 €. Mais je suis sûr que ça m'a beaucoup frappé. C'est tellement que ce petit garçon, qui devait avoir 7-8 ans, qui donnait ainsi toute sa fortune avait davantage plu au bon Dieu que quelqu'un qui faisait un gros don mais qui avait des gros moyens. J'aime bien cette formule des pères. Ce n'est pas la modicité de l'offrande, mais la richesse du cœur que Dieu considère. Nous, on considère les extérieurs, Dieu considère l'intérieur. Il juge l'intérieur des cœurs. N'oubliez pas aussi que pour pouvoir gagner des mérites, il faut être en état de grâce. Donc quelqu'un qui donne volontiers à la quête, mais qui le fait avec orgueil, perd tous les bénéfices de son aumône. L'aumône est nécessaire au salut. Attention, rappelez-vous, je l'ai souvent déjà expliqué en sermon, ces trois points sur lesquels les pères de l'Église insistaient beaucoup dans leur temps, de leur temps, et qui sont toujours très importants aujourd'hui. Les trois grandes choses à faire, l'aumône, le jeûne, la prière. L'aumône pour racheter les péchés commis à partir de la concupiscence des yeux, le jeûne pour rattraper les péchés commis par la concupiscence de la chair, et la prière pour rattraper les péchés commis par la concupiscence de l'orgueil. Alors Saint Bède le Vénérable donne le sens allégorique. Les riches qui déposaient leur offrande dans le tronc du temple sont la figure des Juifs fiers de la justice de la loi. Cette pauvre veuve, au contraire, représente la simplicité de l'Église, simplicité de l'Évangile. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain qui reste à la porte de l'Église, qui n'ose même pas lever les yeux vers l'autel, qui dit « Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur ». Eh bien, ce publicain de l'Évangile représente la pauvre veuve qui a mis, en fin de compte, plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son diligence tout ce qu'elle avait pour vivre. Et au contraire, le pharisien qui se vante, qui rentre dans le sanctuaire, qui se revante, moi je fais ci, moi je fais ci, moi j'ai donné tout, moi je paye les dîmes pour tout, je suis très généreux, eh bien celui-là représente les riches qui mettent leurs offrandes dans le tronc, mais qui le font par ostentation. Donc les riches représentent la figure des Juifs, disent les pères, fiers de la justice de la loi. Le bon Dieu juge le cœur. Donc ne jugeons pas trop vite. On a trop tendance à juger les extérieurs. Il faut juger l'intérieur des cœurs. Et le bon Dieu, qui lui juge l'intérieur des cœurs, aura un jugement tout à fait différent des nôtres. Et rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ qui dit dans un autre évangile que les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens que nous considérons comme moins que rien seront peut-être avant nous dans le royaume des cieux, dans la mesure bien sûr où ils meurent en état de grâce. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ concernant une femme de mauvaise vie célèbre, Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, lui sera beaucoup pardonné. Donc cette pauvre veuve représente la simplicité de l'Église. Bienheureux les simples en esprit, les pauvres en esprit. Elle est pauvre parce qu'elle s'est dépouillée de l'esprit d'orgueil et des péchés qui sont comme la richesse du monde. Donc une petite aumône donnée avec un grand amour du bon Dieu vaut plus qu'une grande aumône faite avec orgueil. Alors, cette pauvre veuve représente donc l'humilité, la véritable humilité, c'est-à-dire l'opposition à l'esprit d'orgueil et les péchés qui touchent à l'orgueil. Elle est non seulement pauvre, cette femme qui a donné plus que tous les autres, mais elle est également veuve. Pourquoi ? Parce que son époux a souffert la mort pour elle. Voilà l'explication donnée par les pères. Elle met deux petites pièces de monnaie dans le tronc. Parce que c'est en présence de Dieu qui conserve les offrandes que nous lui offrons de nos œuvres, qu'elle vient apporter l'offrande soit de l'amour de Dieu et du prochain, soit de la foi et de la prière qui l'emporte de beaucoup sur toutes les œuvres des juifs orgueilleux. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Il va donner à l'aubergiste deux deniers en disant « Prenez soin de ce moribond que j'ai trouvé sur la route, là que j'ai apporté, je l'ai passé sur ma monture, occupez-vous de lui, je reviendrai plus tard et s'il y a d'autres choses à payer, je paierai la différence. » Eh bien, les pères de l'Église expliquent que ces deux deniers représentent justement la charité à l'égard de Dieu, d'une part, et la charité à l'égard du prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux pièces représentent l'accomplissement de l'ensemble des commandements, chaque pièce représentant une des tables de la loi. première table de la loi avec la charité à l'égard de Dieu, commandements 1, 2 et 3. Deuxième table de la loi avec les commandements 4 à 10 qui nous rappellent nos obligations par rapport au prochain. En effet, disent les pères, les juifs qui présument de leur justice donnent à Dieu de leur abondance. L'Église, au contraire, offre tout ce qui sert à sa subsistance parce qu'elle reconnaît que tout ce qui contribue à entretenir sa vie est un don de Dieu. Attention à ne pas tomber dans une erreur qu'on entend trop souvent, les gens qui vont soi-disant parler des richesses de l'Église. Des richesses de l'Église, on parle que de l'Église des pauvres, l'Église des pauvres, l'Église des pauvres. En fait, l'Église est l'Église de tous les hommes. Tous les hommes sont appelés dans l'Église. Les riches, les moins riches, et les pauvres, et les très pauvres. Un des exemples pour expliquer ce que je viens de vous dire, on le trouve dans le début de l'évangile selon saint Luc, des parties qu'on a déjà expliquées. Qui arrive d'abord pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de naître dans la grotte de Bethléem? D'abord les anges, le ciel. Immédiatement après, les plus pauvres, les bergers. Mais immédiatement après les bergers, il y a les plus riches qui arrivent, les rois mages, saint Melchior, saint Gaspard, saint Balthazar. Et donc, il ne faut pas séparer les choses. Donc avoir cette simplicité, il faut que tout le monde soit à l'aise. J'avoue que j'ai tellement été choqué par cette phrase qu'on entend trop souvent, peut-être par des gens mal intentionnés, c'est possible, qui nous disent « oui, vous pensez qu'à l'argent dans l'Église ». Et j'avoue que un petit oratoire dans lequel je célèbre la messe tous les jours, j'ai pas grand monde le dimanche, hein, j'ai à peu près 250 à 200 familles qui suivent la messe dominicale sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube d'Anne Marie, qui suivent la vidéo de la messe. Mais à l'oratoire même, j'ai très peu de monde. J'ai parfois une dizaine de personnes, guère plus, souvent 3-4 personnes le dimanche, c'est tout ce que j'ai. Mais je ne fais pas de quête. Je ne fais pas de quête, j'ai simplement mis un panier à la chapelle, à côté de la porte d'entrée, avec un petit mot pour aider la fuite. Ceux qui veulent donner donnent quelque chose. Et je tiens à faire la même chose pour les retraites. Et souvent, je reçois des coups de téléphone de gens qui disent « Monsieur l'abbé, je voudrais bien venir faire la retraite, mais combien ça me coûte? Combien ça va me coûter ?» Je leur dis « Écoutez, vous donnez ce que vous pouvez. Vous pouvez rien donner, vous donnez rien. » Vous pouvez donner un peu, vous donnez un peu. Vous pouvez donner beaucoup, vous donnez beaucoup. Et votre surplus permettra d'aider des personnes qui ne peuvent pas payer. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je finis la comptabilité d'une retraite, s'il me reste de l'argent, après avoir déduit tous les frais de location du gîte, les frais de nourriture, les frais de transport à rembourser aux deux braves cuisinières qui viennent me faire la cuisine, s'il reste de l'argent, je me sors une cagnotte et je réutilise pour les prochaines retraites. Et jamais j'ai refusé une personne qui ne peut pas payer pour faire la retraite. L'important, c'est les âmes. Bon, certes, je ne veux pas nier que l'argent reste malheureusement le nerf de la guerre. Il faut bien, quand je loue un gîte, le gîte rural à l'EDERG près de chez moi pour prêcher une retraite, ben, j'ai bien une facture à payer, c'est évident. Mais mettre tout ça entre les mains du bon Dieu. Autre commentaire des pères de l'Église, page 1. Cette veuve, cette pauvre veuve, donc, qui a mis deux petites pièces de monnaie, est l'image de toute âme qui, veuve de la loi ancienne, comme de son premier mari, n'est pas encore digne de s'unir au Verbe de Dieu. Elle donne à Dieu pour gage sa foi, sa bonne conscience, et c'est ainsi qu'elle paraît offrir beaucoup plus que ceux qui sont riches en paroles, beaucoup plus que toutes les vertus morales qui forment les richesses des gentils. Encore une fois, Dieu juge le cœur. Nous, on juge l'extérieur. Donc attention à ne pas vouloir, ne pas juger sur les apparences. On voit très bien comment l'humilité, c'est un petit peu la conséquence, la conclusion de ces quatre premiers versets du chapitre 21 de Saint-Luc, l'humilité ouvre la porte du Sacré-Cœur. Si elle a l'orgueil, on n'obtient rien du tout. Avançons avec les versets 5 à 8 du chapitre 21. Comme quelques-uns disaient du temple qui était bâti de belles pierres et orné de riches dons, Jésus dit, des jours viendront où de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Ils l'interrogèrent en disant, Maître, quand ces choses arriveront-elles? Et à quel signe connaîtra-t-on qu'elles vont s'accomplir? Et Jésus dit, prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez donc pas. Jésus déjà nous avertit de ne pas être séduits par les extérieurs, par les apparences. Passons du paraître à l'être. Je pense que s'il fallait définir la fin de civilisation dans laquelle nous vivons, surtout en France, c'est la fausse civilisation du paraître. L'Église au contraire, l'Église catholique, c'est la civilisation de l'être. Et c'est important de comprendre cela, parce qu'il n'y a pas un choix entre une civilisation catholique et une civilisation protestante. C'est Saint Pélisse qui disait, il y a simplement le choix entre une civilisation catholique et pas de civilisation du tout. Il y a une vraie civilisation, comme il n'y a qu'une seule vraie Église, l'Église catholique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut, et des fausses Églises, et donc des fausses civilisations. Les pères parlent donc d'un autre temple, c'est la synagogue, dont l'antique édifice devait s'écrouler à la naissance de l'Église. Rappelez-vous ce que j'ai déjà souvent expliqué, que notre Seigneur Jésus-Christ va venir en tant que Messie, qui a été annoncé par les miracles, annoncé aussi, prouvé par les miracles, le caractère divin de notre Seigneur, sa messianité a été prouvée par ses miracles, mais également par l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc l'ancien édifice et l'édifice de l'Ancien Testament va s'écrouler littéralement à la naissance de l'Église catholique qui est la nouvelle Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le rideau du temple, le temple de l'Ancien Testament, va se déchirer en deux pour bien montrer que les règles liturgiques et les coutumes de l'Ancien Testament sont devenues caduques. Certes, c'est toujours le même Dieu, attention. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est bien sûr le même Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais l'Église de l'Ancien Testament est une Église mortifère. Donc il y a faute grave, il y aurait faute grave aujourd'hui pour un catholique de suivre les règles liturgiques de l'Ancien Testament. Et il y a une progression dans l'Église. Le pape Pie XII a condamné ce qu'il appelait l'archéologisme. Les gens comme ça, qui pensent que plus une prière est ancienne, meilleure elle est. Plus un missel est ancien, meilleur il est. Et donc, je connais des fidèles comme ça qui vont vous dire il vaut mieux suivre un missel des années 1920, c'est certainement un missel d'hôtel des années 1920, c'est certainement mieux que suivre le missel de Pie XII qui est mort en 1958. Attention, le pape Pie XII a introduit un certain nombre de réformes dans l'esprit d'Église. Et donc, le pape Pie XII étant le dernier pape légitime, il est mort en 1958, il y a donc l'obligation grave, sous peine de péché, pour le prêtre et pour les fidèles, de suivre les réformes liturgiques introduites par le pape Pie XII, comme le pape Saint Grégoire le Grand a introduit une énorme modification liturgique en réformant complètement ce qui tenait lieu de missel à son époque. Le pape Saint Pie X lui-même a commencé une réforme liturgique que le pape Pie XII va continuer. Donc ce temple qui doit s'écouler à la naissance de l'Église, c'est la synagogue qui laisse la place à, en quelque sorte, la nouvelle synagogue qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église catholique. Donc j'ai déjà expliqué tout ça, je ne reviens pas. Rappelez-vous la formule qui est à mon avis très exacte, à savoir que le peuple élu de l'Ancien Testament est remplacé par un peuple élu qui est nouveau, qui est le peuple catholique. Nous avons, nous aussi, un temple au-dedans de nous qui s'écroule lorsque la foi s'affaiblit et surtout lorsqu'on affecte par hypocrisie de paraître extrêmement chrétien pour se déclarer plus facilement contre Jésus-Christ dans l'intérieur de son âme. Ce n'est pas celui qui va dire « Seigneur, Seigneur » qui va sauver son âme, mais celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. C'est quoi écouter la parole de Dieu? Ça, c'est le symbole de la foi. Et que représente la pratique de la foi? La pratique de la foi, c'est notre charité. Le jour de notre mort, nous serons jugés sur notre degré de charité. Le degré de charité, c'est quoi? C'est le degré d'amour de mon Dieu que j'ai dans mon âme. Comment puis-je dire que j'aime Dieu si tranquillement je désobéis à sa loi? Comment puis-je prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ, aimer son Église, si je vis tranquillement avec la femme du voisin, ou si je viole tranquillement les différents commandements de Dieu? Attention. Encore une fois, Dieu juge l'intérieur des cœurs. Et lorsque je commets un péché mortel, c'est l'édifice de mon âme qui s'écroule. C'est pour cela qu'un tel péché est appelé mortel, parce qu'il tue l'âme, littéralement. Donc notre âme est un temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Attention de ne pas profaner ce temple. Je profane le temple du Saint-Esprit par le péché mortel. Saint Bède le Vénérable, en bas de la page 1. En effet, peu de temps avant la ruine de Jérusalem, on vit paraître plusieurs chefs de sédition qui affirmaient qu'ils étaient le Christ et annonçaient l'approche de l'ère de l'affranchissement de la liberté. Ceci, c'est un commentaire sur le verset 8. Jésus qui dit « Prenez garde d'être séduits par beau, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi, le temps est proche, ne le suivez donc pas ». Donc notre Seigneur Jésus-Christ annonce l'arrivée de faux prophètes. On vit aussi dans l'Église des hérésiarques que l'Église que l'apôtre a condamné et qui annonçait que le jour du Seigneur approchait. Il paraît aussi plusieurs antéchrists qui déclaraient venir au nom du Christ. Le premier d'entre eux fut Simon le magicien qui disait de lui-même « Celui-ci est la grande vertu de Dieu ». Donc attention à ne pas juger sur les extérieurs. L'Église catholique passe du paraître à l'être, passe du virtuel au réel. La philosophie de l'Église catholique, c'est la philosophie du réalisme, ce qu'on appelle l'objectivisme. Donc ne jugeons pas sur les extérieurs. Si notre Seigneur Jésus-Christ, à 2000 ans, avertissait ses apôtres qu'il y aurait des gens qui vont venir les séduire, croyez-moi, ce qu'il disait notre Seigneur Jésus-Christ à 2000 ans est toujours vrai aujourd'hui. On voit à quel point le bon Dieu permet que nous soyons séduits par le séducteur par excellence, qui est le démon lui-même. Quand la très sainte Vierge Marie est apparue, par exemple, à Lourdes, en 1858, lorsqu'elle est apparue à Lourdes, à Sainte-Bernadette-Soubirous, dans les mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup de fausses apparitions dans le coin, dans les Pyrénées, entre autres à Ségus, tout près de Lourdes. Il y avait une autre jeune fille qui prétendait avoir des apparitions. Lorsque Sainte Jeanne d'Arc a été envoyée par Dieu pour bouter les Anglais hors de France et nous sauver du protestantisme, Sainte Jeanne d'Arc, c'est 1412-1431, il y a eu toute une série de fausses Sainte Jeanne d'Arc qui sont apparues aussi, des jeunes filles qui se prétendaient envoyées de Dieu. Donc, soyons pas surpris, s'il y a des risques de séduction, les fausses apparitions courent les rues. Prenez garde d'être séduit, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure que ce qu'il dit est toujours parfaitement valide aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant. À ce propos, je me permets de vous rappeler cette règle de prudence élémentaire que nous donnait Monseigneur Lefebvre au séminaire à propos des apparitions. Beaucoup de gens se font rouler, laissent séduire par des fausses apparitions. Monseigneur Lefebvre nous disait, donnez une règle toute simple, ne suivez que les apparitions reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII en 1958. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les apparitions qui ont pu arriver après 1958 sont fausses. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire, c'est pas du tout ce que je veux dire non plus. Mais après 1958, n'avons plus de pape légitime après 1958. Les évêques font n'importe quoi, et donc il n'y a plus de preuves de véracité. Avant, lorsqu'une apparition était arrivée sur la Terre, l'Église faisait des investigations très profondes pendant parfois des années et des années avant de reconnaître l'apparition. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait rouler par des fausses apparitions. Je pense par exemple à l'apparition de Medjugorje qui a fait beaucoup de mal. Il suffit de lire un peu les messages des voyantes de Medjugorje en Yougoslavie actuelle pour se rendre compte à quel point le démon est malin pour nous rouler, parce qu'il est le singe de Dieu. Dans un des messages de la Sainte Vierge reporté par Vicky, une des voyantes, fausses voyantes de Medjugorje, elle dit que la très Sainte Vierge Marie, mon fils, la très Sainte Vierge Marie qui parle, disant mon fils respecte toutes les religions. Mais il suffit de voir une chose comme ça, d'entendre une déclaration de ce genre, pour que cette apparition soit envoyée à la poubelle. Elle ne peut pas être de Dieu, puisqu'elle s'oppose à la foi catholique. Donc attention à ces fausses apparitions, suivant la vertu de prudence. Le bon Dieu ne vous reprochera jamais d'être trop prudent. Par contre, il nous reprochera d'être imprudent. Dans beaucoup de pays, il y a ces fausses apparitions qui ont fait beaucoup de mal. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait près de New York, j'étais à l'époque à New York, près de New York, dans l'état du Connecticut, il y avait l'apparition de Bayside, de Veronica Loken, qui a fait un dégât énorme, et qui a enseigné que la nouvelle messe était le poison, mais qu'il fallait rester dans la paroisse néanmoins pour donner le bon exemple. Et on avait des fidèles qui allaient le matin à la nouvelle messe et qui le soir venaient à la messe chez nous pour pouvoir quand même avoir la messe traditionnelle, parce qu'ils voulaient suivre les conseils, de Veronica Loken. Quand j'étais en Australie, c'était Little Pebble à Sydney, c'était une certaine voyante à Toowoomba, près de Brisbane, aussi des fausses apparitions, et les gens racontent n'importe quoi et croient n'importe quoi. Notre Seigneur nous prévient, attention, ne soyez pas séduits, parce que beaucoup viendront sous mon nom, en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez donc pas. Attention aussi dans ce domaine, parce que ici notre Seigneur nous avertit que des faux prophètes annonceront la fin des temps. Le temps est proche, c'est-à-dire le temps de la fin du monde est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais voulu révéler, même à ses disciples, le temps de la fin du monde. Il y a les pères d'église qui se sont trompés dans ce domaine. S'ils croyaient que la fin du monde allait arriver. Beaucoup de gens pensaient, les premiers siècles de l'église, que la fin du monde était tout proche, qu'elle est arrivée certainement avant la fin du premier millénaire. Elle n'est pas arrivée. On entend souvent des fidèles nous dire, monsieur l'abbé, on est à la fin des temps. On n'en sait strictement rien. Ah ben, la très sainte Vierge Marie a annoncé la fin du monde à Fatima. Elle n'a jamais annoncé la fin du monde à Fatima. On est peut-être à la fin d'un temps. De là à dire qu'on est à la fin des temps, qu'on est à la porte de la fin du monde, on n'en sait strictement rien. Je l'avais, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait des années qu'on dit ça, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas descendre plus bas. Regardez en matière politique, c'est la même chose. Quand on a eu Sarkozy, on pensait qu'on pouvait difficilement descendre plus bas. On a eu Hollande, et puis une fois qu'on a eu Hollande, on est au fond du gouffre, on a eu Macron, c'est encore pire. Et le prochain ou la prochaine, c'est encore pire. Eh bien, c'est la même chose, mes bien chers frères. On a l'impression qu'avec Bergoglio, on ne peut pas descendre plus bas. Et pourtant, malheureusement, le démon, le singe de Dieu, il peut encore faire descendre ses faux papes encore plus bas. Alors, combien de temps encore cela va-t-il durer? J'en sais rien. Donc, faire attention à ça, parce que j'ai beaucoup trop de fidèles que je connais qui vivent là-dessus. On arrive à la fin des temps, donc, littéralement, ils voudraient s'enfermer dans une cave avec quelque chose à manger et à boire pour quelques semaines et attendre la fin du monde. C'est pas ce que nous demande le bon Dieu. Le bon Dieu ne nous demande pas de nous enfermer dans la cave ou d'aller vivre dans une grotte jusqu'à la fin des temps. Il nous demande de vivre comme témoin de l'évangile dans le monde moderne dans lequel nous sommes. Si nous devons subir la persécution, mais le bon Dieu nous donnera la grâce d'être mangé par les lions, l'équivalent avec un grand sourire. Passons à la page 2, les versets 9 à 11 du chapitre 21 de Saint-Luc. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas encore aussitôt la fin. Alors il leur dit, nation se soulevera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, et des pestes, et des famines, et des choses effrayantes dans le ciel, et des grands signes. Mais même si nous voyons certains de ces signes, est-ce que nous sommes pour autant à la fin des temps? Ça, c'est pas sûr du tout. N'oublions pas que d'après les pères de l'Église, un des signes par lesquels nous pouvons reconnaître que nous sommes à la fin des temps, ceci est très important, c'est la conversion du peuple juif. Mais on n'a pas vu la couleur encore. J'espère que ça arrivera de tout mon cœur. Je souhaite beaucoup que les juifs sauvent leurs âmes comme eux aussi ne peuvent pas sauver leurs âmes dans le judaïsme. C'est une fausse religion aujourd'hui, donc il faut prier pour que les juifs se convertissent. J'espère bien qu'ils vont le faire. Mais on n'a pas encore vu la conversion du peuple juif. Donc on n'est pas du tout à la fin des temps. Combien de temps encore cela va-t-il durer? J'en sais rien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos fidèles se découragent. Parce qu'ils sont persuadés qu'on arrive à la fin des temps. Donc ils attendent la fin des temps littéralement pour le lendemain. Cette fin des temps, n'arrivant pas, ils se découragent en disant, ben, on devait arriver à la fin des temps, on n'est pas là. Il faut penser à ces protestants aux États-Unis qui régulièrement annonçaient la date de la fin du monde. Alors, évidemment, à chaque fois, ils se trompaient. On n'en sait strictement rien. Donc, on peut vraiment dire que si une apparition donne une date de fin du monde, 9 fois sur 10, vous pouvez être certain que c'est une fausse apparition, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu, justement, donner cette date ni aux apôtres, ni à nous. Seul Dieu le Père le connaît cette date. Donc nous avons détourné à des usages coupables, nous disent les pères, ce que nous avions reçu pour les besoins de notre vie. Dieu, à son tour, fera servir à notre châtiment toutes les créatures dont nous aurons fait des instruments d'iniquité. Les créatures qui sont autour de nous, elles sont à notre service. Mais attention, il faut les utiliser, comme dit Saint Ignace au début de ses exercices, autant que, pas plus que. J'ai le droit d'utiliser les créatures qui sont autour de moi, dont, en la mesure où ces créatures m'aident à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé, à savoir le salut de mon âme. Mais si ces créatures qui m'entourent sont pour moi des obstacles, eh bien, il faut que je coupe. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur sur ce sujet. Si ton pied droit ou ta main droite ou ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, coupe, jette au loin, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel, pied beau, ou manchot, ou borgne, plutôt que de tomber en enfer avec les deux mains, les deux pieds et deux yeux. Donc, nous avons le droit d'utiliser les créatures qui sont autour de nous. Le bon Dieu ne nous demande pas de ne pas utiliser les créatures qui sont autour de nous. Vous avez le droit d'avoir un amour particulier pour des belles choses. Moi, j'aime la belle musique. J'aime beaucoup la musique baroque, la période baroque, hein, 1550-1750. Donc, toute la période baroque, j'aime énormément écouter de la belle musique. Souvent, j'écoute sur YouTube, je regarde des très beaux concerts tout en travaillant en même temps. Il y a certaines activités intellectuelles que je peux faire tout en écoutant de la très belle musique. C'est pas un péché, on a le droit d'aimer les belles choses, on a le droit d'aimer la belle peinture. Vous avez le droit d'aimer des beaux paysages, vous avez le droit d'aimer du sport, à condition de pas adorer le sport ou les sportifs. Bon. Mais c'est pas un péché d'utiliser les créatures qui sont autour de nous. On a parfois des fidèles qui racontent des grosses bêtises sur le sujet. Pas très longtemps, j'ai entendu une réflexion comme ça, complètement stupide, d'une personne qui était une femme qui était très bien habillée, qui était habillée avec dignité, avec une certaine beauté. Et une personne dans la chapelle, elle l'a critiquée en me disant « Cette femme, elle est vaniteuse, elle est mondaine, parce qu'elle s'habille avec beauté. » Mais attendez, le bon Dieu n'a jamais demandé aux femmes de devenir laides. Le bon Dieu a parfaitement autorisé l'usage, avec raison, de certaines aides. Aide pour être plus jolie. Une femme a le devoir de plaire à son mari. Une femme a le devoir d'être féminine. C'est son devoir d'État. Elle a le devoir d'être anti-féministe, mais elle a le devoir d'être féminine. Il n'y a pas plus anti-féminine qu'une féministe. Et donc, j'ai connu des gens, même si l'abbé, c'est un scandale, elle était fidèle de la paroisse, je l'ai vue au restaurant avec son mari, elle était parfumée, elle avait du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Mais attendez, y a-t-il une loi de l'Église qui interdit le vernis à ongles et le rouge à lèvres pour une épouse qui sort avec son mari, qui veut plaire à son mari, qui veut tout simplement sentir un peu à l'aise dans le monde? C'est pas un péché. Ce serait un péché de mettre du rouge à lèvres et d'utiliser du vernis à ongles pour plaire au mari du voisin, ou pour plaire à une personne à qui elle n'a pas le droit de plaire, ça c'est autre chose. Vous voyez ? Mais il n'y a aucune obligation pour une personne, une femme notamment, les femmes sont comme les fleurs dans la prairie, dit saint Thomas d'Aquin, c'est vrai, il n'y a aucune obligation d'être aussi laide que possible. J'ai eu de nombreux cas comme ça, des déséquilibres importants qui ont fini par conduire à l'éclatement de certaines familles. Je me rappelle un cas très précis que je pense, une personne qui me disait « Monsieur l'abbé, c'est terrible, j'ai l'impression que mon mari, il n'est plus intéressé par moi. » Bon, j'ai vraiment été très tenté de lui dire « Madame, vu la façon dont vous êtes fagotée, c'est pas étonnant. » Vous êtes regardé dans une glace un peu? Bon, je ne l'ai pas dit parce que ça allait être très mal interprété, elle aurait bondi. Mais c'est ce que je voulais dire. J'ai eu des personnes des mères de famille qui, sous prétexte qu'elles ont des enfants, s'occupent plus du tout de leur corps, plus du tout d'être agréable, d'être jolie, d'être agréable à regarder dans le bon sens des choses, surtout par leur mari. Ce n'est pas un péché, c'est même une obligation pour une femme, une épouse, de plaire à son mari, attention. Et donc faire attention à ces choses. Encore une fois, il faut de l'équilibre. C'est là où la vertu de prudence va intervenir. Hein? Donc, si j'utilise les créatures qui sont autour de moi pour aller contre la loi du bon Dieu, bien sûr, je pêche. J'ai le droit d'utiliser ces créatures si ces créatures m'aident à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé. Attention. Encore une fois, du bon sens. Oui. J'ai souvent vu on voit souvent ça après les retraites, des personnes qui ont mal compris certaines choses. Et maintenant, j'explique bien en retraite, toutes les dames qui sont très généreuses en général et qui ont dit, Monsieur l'abbé, j'ai dans le passé, j'ai gravement offensé bon Dieu par la vanité, par l'impureté, je ne sais quoi. Donc maintenant, j'ai décidé de m'habiller comme une bonne sœur à longueur de journée. Attention, mademoiselle, madame, vous n'êtes pas une bonne sœur. Le bon Dieu ne vous demande pas de vous habiller comme une bonne sœur. Il vous demande de vous habiller avec dignité. Il vous demande de vous habiller avec beauté. À ce propos, je conseille beaucoup à ceux qui, surtout aux femmes, mais même aux hommes, d'aller faire un tour sur un excellent site internet qui s'appelle Femmes à part, d'une personne qui s'appelle Thérèse, une jeune femme, qui fait un site excellent avec ce qu'on appelle des podcasts, des petites conférences assez courtes en général, 25 minutes, une demi-heure. Sur la pudeur, sur le rôle de la femme, sur l'éducation des enfants, sur la beauté féminine, elle est pleine de bon sens. C'est tout à fait catholique, c'est une personne catholique de tradition, je connais un peu sa famille, une personne catholique de tradition, et je conseille beaucoup aux jeunes filles surtout, et aux jeunes mamans, d'aller faire un tour sur ce site. Elle a des tas de bons conseils qui peuvent beaucoup aider les gens, et même les hommes. Ils pourront trouver des tas d'idées pour justement être plus équilibrés dans ce domaine. D'après Saint Bède le Vénérable, donc notre Seigneur veut aussi avertir les apôtres. Donc c'est au verset 10, nation se soulevera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre, des pestes, des famines, des choses effrayantes dans le ciel et de grands signes. Donc notre Seigneur veut avertir les apôtres de ne pas s'effrayer de ces signes précurseurs et de ne quitter ni Jérusalem ni la Judée. On peut voir encore dans ces royaumes soulevés les uns contre les autres, dans ces pestes, les doctrines pestilentielles qui s'étendent et rongent comme un cancer. Donc l'hérésie, si vous voulez. L'hérésie est assimilée au cancer, à la peste. Dans ces famines, la faim d'entendre la parole de Dieu, dans ces tremblements de terre, de toute la terre, la séparation de la vraie foi, même dans les hérétiques, qui, en luttant les uns contre les autres, contribueraient ainsi au triomphe de l'Église. Vous voyez, le bon Dieu se sert, vous savez, parfois de grosses épreuves pour ramener un certain nombre d'âmes vers lui, quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais moi je le vois bien en tant que vrai être. Quand les gens commencent à voir les bombes qui tombent de tous les côtés, ils cherchent spontanément le chemin le plus court qui mène au confessionnal. Hein? Et c'est exactement ça. Beaucoup de gens ne prient pas, mais quand ils se rendent compte qu'il y a un risque sérieux de mort, ils vont commencer à retrouver le sens de la prière. Les gens qui ne s'occupaient pas de vivre en état de grâce, quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de mourir parce qu'ils ont une maladie grave, un cancer ou quelque chose de ce genre, spontanément, ils vont demander le prêtre. Et je peux vous assurer que dans bien des cas, ils vont demander le prêtre de tradition, parce qu'ils veulent un prêtre en soutane, un prêtre qui est validement prêtre pour être sûr que leur absolution est valide. Hein? Donc, faisons attention à ces choses-là et sachons lire à travers les lignes dans ce qui se passe dans le monde moderne. Les gens ont tous peur du Covid, je n'en parle plus que de ça, alors que c'est une maladie qui n'atteint que 0,05% des personnes qui ont plus de 65 ans. Bon. Mais il y a quelque chose de bien plus grave que le Covid, c'est le péché grave. Bon, certes, le Covid tue, c'est exact, le Covid a tué, comme la simple grippe d'automne ou du printemps peut tuer. Il y a des tas de gens qui meurent de la grippe, je ne sais pas combien, je crois que c'est 12 ou 13 ou 14 000 personnes qui meurent tous les ans de grippe, personnes âgées, surtout, de même, qui est à peu près l'équivalent, je crois, qui meurent, qui peuvent mourir du Covid, c'est possible, vous voyez. Mais ce n'est pas le Covid ou la grippe qui sont graves en tant que tels. Un péché mortel, c'est bien plus grave que le Covid. Un péché mortel, c'est bien plus grave que la grippe. Il faut peut-être rappeler ça au ministre de la Justice d'aujourd'hui, au ministre de la Santé, à notre cher président. Donc, la peste représente l'hérésie, la famine, cette faim que nous devons avoir d'entendre la parole de Dieu. C'est quand on a faim qu'on cherche la nourriture, de la même façon, c'est quand on n'a plus de prêtre qu'on commence à comprendre l'importance du sacerdoce. Je crois que c'est Saint Cyrille qui avait dit, on comprendra ce qu'est une messe, le jour où il n'y aura plus de messe. On comprendra ce qu'est un prêtre, le jour où il n'y aura plus de prêtre. Vous voyez, il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous ne pourrez plus vous confesser, il n'y aura plus de prêtre. Il n'y aura plus que des prêtres invalidement ordonnés. Moi je vois, ça me fait d'ailleurs très plaisir de voir parfois des gens qui font des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir se confesser. Bon. Mais pensez aux gens qui habitent dans des pays où il n'y a rien, plus de prêtres. Plus de prêtres. Mais remerciez le bon Dieu d'avoir encore des prêtres à votre disposition. Et croyez-moi, ça risque de ne pas durer longtemps. Donc il faut se préparer et être en état de grâce. Avançons, versets 12 à 19, du chapitre 21, page 2. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, vous traînant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous arrivera pour que vous rendiez témoignage. Mettez donc dans vos cœurs que vous n'aurez pas à méditer d'avance comme vous répondrez. Comment vous répondrez? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et pas un cheveu de votre tête ne périra, car c'est par votre patience que vous sauverez. C'est par votre patience, pardon, que vous sauverez vos vies. Vous pouvez vraiment croire ces versets écrits par notre Seigneur Jésus-Christ pour les temps d'aujourd'hui. On nous mettra à mort, on nous persécutera, on nous déchirera, on se moquera de nous, on nous traitera plus bas que père, plus bas que terre. On voit très bien aujourd'hui comment tous ceux qui cherchent un peu la vérité sont tout de suite traités de racistes, de sexistes, de complotistes, de moyenâgeux, de dinosaures, de diplodocus, je ne sais pas quelles sont les dernières injures à ce sujet. Donc attention, notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient, nous serons persécutés. À partir du moment où nous vivons comme catholiques, nous serons persécutés. À partir du moment où nous agissons comme un catholique, nous serons persécutés. À partir du moment où nous habillons comme des catholiques, surtout pour les femmes et pour les hommes aussi, nous serons persécutés. À partir du moment où nous acceptons d'avoir des enfants, on se moquera de nous, c'est évident. Voilà quelques commentaires des pères de l'Église sur ce sujet. Celui qui pratique la patience dans l'adversité, c'est Saint Grégoire le Grand. Celui qui pratique la patience dans l'adversité puise sa force contre toutes les tribulations par le même principe qui lui fait remporter la victoire sur lui-même. Vous posséderez vos âmes dans la patience. Et la patience dans l'adversité, elle est donnée par qui, par quoi? La patience dans l'adversité, elle est donnée par la contemplation du mystère de la passion. C'est en se mettant au pied de la croix qu'on comprend qu'on ne peut rien faire sans la grâce du bon Dieu. Qu'est-ce que posséder son âme, sinon de mener une vie entièrement irréprochable? Et comme du haut d'une forteresse dominée par la vertu, tous les mouvements de son cœur. Ainsi, nous possédons nos âmes par la patience, parce qu'en nous dominant nous-mêmes, nous commençons à être les maîtres de ce que nous sommes. Voici l'importance de la vertu de prudence qui va nous aider à gérer les différentes situations. Nous demandons cette prudence dans notre réaction pour conserver la foi. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans la permission du bon Dieu. Et si bon Dieu permet des persécutions, elles arriveront. Et nous donnera les grâces dont nous avons besoin. Est-ce que nous aurons le même genre de persécution physique par laquelle les premiers chrétiens sont passés au début de l'histoire de l'Église? N'oubliez pas, les premières persécutions, il y en a une dizaine, depuis la première de Néron jusqu'à la dernière de Dioclétien. C'est fini avec la victoire de Constantin en 313. Il y en a eu des persécutions, des millions de morts. Et puis il faut aller voir les circonstances dans lesquelles ces gens-là devaient mourir. Eh bien, le bon Dieu, s'il permet des choses comme ça, eh bien, tant mieux d'un certain côté, c'est ce qu'il fait. N'oublions pas que lorsqu'on est mangé par un lion, ou par un tigre, ou par une panthère, par amour du bon Dieu, on passe directement de l'estomac de la panthère au ciel. Hein. C'est direct, l'ascenseur direct. Bon, à l'époque, il y a eu très très peu de lapsis, très très peu de tombées, de gens qui ont apostasié, il y en a très peu. Alors, le démon, il a un peu changé de technique, on le voit très bien, et son rôle, c'est pas d'envoyer les gens au ciel, il aurait pu se dire à la fin des persécutions, mais mon truc, ça n'a pas tellement marché, j'ai fait persécuter ces catholiques, et ils sont tous montés au ciel. Donc aujourd'hui, il a changé de technique. C'est plus trop des persécutions physiques, quoi qu'elles existent dans certains pays, il suffit de voir ce qui se passe en Chine, et de plus en plus en France. Hein. Donc il faut comprendre que le démon utilise une autre technique, cette technique de goutte à goutte, littéralement, la goutte qui se... des petites persécutions constantes, pour finir par user littéralement la réaction, la résistance des catholiques. Hein. La possession de l'âme donc dépend de la vertu de patience, parce que la patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. La patience consiste donc à supporter avec calme les épreuves qui nous viennent d'autrui et à ne nourrir aucun ressentiment contre ceux qui en sont la cause. Regardez ces premiers martyrs qui priaient pour leurs persécuteurs. Priaient pour leurs persécuteurs. C'est difficile de prier pour quelqu'un qui nous persécute. Hein? Si on te frappe sur la joue droite, dis notre Seigneur, tends la joue gauche. Hein? Alors, demandons cette vertu de patience, de comprendre que si le bon Dieu permet qu'on passe par des persécutions physiques, il nous donnera les grâces de nos avancements. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit plus des persécutions psychologiques. Dieu sait si les mères de famille, qui par exemple veulent éduquer l'enfant, les enfants à la maison, qui veulent que leurs enfants s'habillent correctement, Dieu sait si elles ont des contradictions, des persécutions de toutes sortes, de la part du gouvernement, de la part des représentants du gouvernement, qui ne peuvent pas supporter d'avoir un catholique en face d'eux. N'oublions pas que les catholiques de tradition représentent un gibier de choix pour le démon. J'aime bien cette phrase des pères. La possession de l'âme dépend de la vertu de patience, parce que la patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. Donc c'est par votre patience que vous sauverez vos vies, nous dit notre Seigneur. La patience est donc la possession de nos âmes. Pourquoi ? Parce que la patience dirige l'âme et la maintient dans la paix, la courbant et l'influençant comme elle veut. Par la patience, on se met entre les mains du bon Dieu et on dit, oh mon Dieu, que votre volonté soit faite. Page 3. Personne ne peut garder l'espoir d'une vie future sans qu'il ait la patience dans les travaux de la vie présente. Les travaux, les difficultés, les persécutions de la vie présente sont comme les barreaux d'une échelle qui nous montent vers le ciel. Chaque fois que j'accepte avec pondération, avec patience, les épreuves d'aujourd'hui, ben je me rapproche un peu plus du bon Dieu, parce que je passe un barreau supplémentaire qui me rapproche du bon Dieu. La possession de l'âme consiste dans la vertu de patience, dit Saint Grégoire, parce que la patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. Oui, on retrouve ici les mêmes paroles. Il y a un doublon là que j'ai supprimé dans le nouveau polycopier que je mets en fin de... Quand je finis un polycopier, après avoir fait toutes les corrections pendant les différentes conférences que j'ai données sur le texte de ce polycopier, je remets un nouveau polycopier avec les corrections. Donc là, il y a un doublon qui va être supprimé dans le nouveau polycopier. Cette phrase a déjà été citée. Par la patience, nous possédons notre âme, nous apprenons à nous gouverner et nous commençons à posséder la connaissance de nous-mêmes. Saint Ignace de Loyola insistait beaucoup dans l'ordre des Jésuites, la connaissance de soi-même. Il disait, une des choses les plus importantes, c'est connaissance de soi-même, connaître ses propres limites, connaître ses propres faiblesses, connaître les propres fissures dans l'édifice de notre âme, dans le mur de circonvolution autour de notre âme, les remparts autour de notre âme. Saint Thérèse d'Avila, même quand on comparait l'âme à un château fort, il y a un mur de protection autour, il y a des faiblesses dans ce mur, il faut les connaître, ce qu'on appelle le défaut particulier, et Saint Ignace insistait beaucoup avec ses jésuites sur la lutte contre le défaut particulier, connaître ses propres faiblesses, et vous avez intérêt à les connaître, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui les connaît bien mieux que nous, c'est le démon. Le démon les connaît, il va attaquer par ses points faibles.
Donc il est très important de connaître son point faible. Et en général, le point faible, 9 fois sur 10, dépend du tempérament que nous avons. Si je suis un colérique, le point faible tournera autour de l'impatience, c'est sûr, la colère. Si je suis un sanguin, en général, le point faible, le défaut dominant, va tourner autour du mensonge, avec sa conséquence directe, le vol, la superficialité, une certaine exagération dans l'étalage de sa joie. Si je suis un mélancolique, la faiblesse du mélancolique, c'est les bouderies qui nous empêchent d'ouvrir notre âme à la grâce du bon Dieu. Et si je suis un flegmatique, eh bien, ma faiblesse pour la faiblesse du flegmatique, c'est la paresse. Alors attention, il y a des gens qui ont une double personnalité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une double personnalité? C'est quelqu'un qui a un double tempérament, un tempérament que tout le monde voit, puis il y en a un autre qui est caché derrière. C'est ça la double personnalité. Double personnalité, ça veut dire deux tempéraments, et donc ça veut dire plusieurs défauts particuliers. Donc il faut bien arriver à les déterminer, parce que le démon les connaît bien mieux que nous. Celui qui espère tout le temps d'être délivré de ses épreuves n'a pas la patience, mais n'en montre que l'extérieur. Oui, on est un peu comme ça dans le monde moderne. Les catholiques, même de tradition, tous les jeunes sont comme ça, c'est terrible. Et dès qu'il y a la moindre petite difficulté, le moindre petit problème, « Ah, mon Dieu, s'il vous plaît, enlevez-moi vite cette croix. » Un petit bobo qui part, « S'il vous plaît, mon Dieu, faites vite quelque chose, que je ne sens plus rien, que j'ai plus mal, que tout aille bien. » Et qu'il y a une moindre petite difficulté financière, un petit contretemps, « Ah, mon Dieu, vite, venez vous occuper de moi pour m'enlever ça. » Et on ne comprend pas en général que ces petites contradictions, ces contretemps, ces petites difficultés de santé, de familiale, professionnelle, d'études, je ne sais quoi, elles sont pour nous tout simplement des barreaux d'une échelle qui nous rapproche du bon Dieu. Combien de personnes se sont sauvées par la maladie? J'en ai rencontré plein en tant que prêtre. Et combien de personnes ont sauvé leur âme à cause d'une grosse épreuve, et s'ils n'avaient pas eu cette grosse épreuve dans leur âme, dans leur corps, peut-être qu'ils n'auraient jamais sauvé leur âme. Ils ont sauvé leur âme grâce à l'épreuve qu'ils ont passée avec succès, parce que le bon Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos limites. Il connaît nos limites. Et là, il y a une belle citation du livre des Proverbes, le roi Salomon. L'homme patient est meilleur que l'homme vaillant. Et celui qui gouverne son esprit est meilleur que celui qui prend des cités. Vous voyez? Saint Thomas explique d'une autre façon en disant que dans la vertu de force, il y a deux parties. L'agrédie et le soustinéré. L'agrédie, c'est la partie agressive. Il faut que je prenne une place de l'ennemi que l'ennemi a pris. Je dois récupérer le château. Donc je lance toutes mes troupes, toutes mes forces au combat pour assaillir ce château et faire fuir l'ennemi du château. Ça, c'est l'agrédie, la partie agressive. Et ensuite, une fois que j'ai pris le château, il ne s'agit pas que j'aille faire la sieste. Hein. Il s'agit maintenant de mettre des gardes sur tous les remparts autour du château pour protéger le château et être sûr que l'ennemi ne revient pas. C'est ce qu'on appelle le soustinéré, la soutenance. Une fois que j'ai mis le démon dehors, en dehors de mon âme, par une bonne confession, un acte surnaturel, en utilisant le sacrement de pénitence, par exemple, la Sainte Eucharistie, j'ai mis le démon dehors. Attention à ce qu'il ne revienne pas, parce que le bon Dieu nous a prévenu que si le démon revenait, il va revenir avec 7 démons pires que lui, et à ce moment-là, notre état spirituel sera pire que celui dans lequel nous étions auparavant. Donc attention à ça. Donc l'homme patient est meilleur que l'homme vaillant. Et donc sachons nous battre pour protéger l'état de notre âme. Donc, Saint Thomas fait bien remarquer que le soustinéré est beaucoup plus important que l'agrédie. J'irai donner un coup de collier pour une courte période de temps, c'est relativement facile. Mais passer après des heures et des heures à garder la muraille pour être sûr que l'ennemi ne revient pas, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les jeunes sont comme ça, surtout les jeunes, ils voudraient avoir des résultats tout de suite. Et le bon Dieu, parfois, nous fait comprendre que les choses vont durer. Comme les gens qui prient, qui nous demandent qu'on ait un Saint-Pilice dès demain matin. Moi j'aimerais bien qu'on ait un Saint-Pilice dès demain matin, ça serait pas mal ça. Bon, et dans combien de temps ça va durer? Ah, monsieur l'abbé, ça dure plus de 50 ans, ça peut continuer comme ça. Ça continuera le temps que le bon Dieu le voudra. Bon, est-ce que si le bon Dieu a décidé que ça devait durer 2 siècles de plus, j'en suis navré, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner le combat parce que le bon Dieu a décidé que le modernisme serait encore triomphant? dans l'Église pendant 2 siècles de plus. Mais si le bon Dieu permet qu'on n'ait pas de pape légitime pendant encore 200 ans, mais ça n'est pas une excuse pour continuer le combat. Il faut continuer de sauver notre âme. On sauvera notre âme dans la mesure où nous vivons en état de grâce. Et on peut vivre en état de grâce même s'il n'y a pas de pape. Hein. Attention. Prendre les cités est une victoire moindre parce qu'elle représente une conquête extérieure. Celui qui est gouverné par la patience est plus grand parce qu'il se soumet à l'humilité de l'endurance. La persévérance est directement fille de la patience. Pas de persévérance possible sans la vertu de patience. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ici un texte de Saint Grégoire qui donne l'exemple d'un abbé Stéphane, qui répondait aux insultes en remerciant, les considérant comme un gain et ses adversaires comme des bienfaiteurs. Et à sa mort, les anges furent vus menant son âme au ciel. Beaucoup de gens ont sauvé leurs âmes grâce aux persécutions, grâce aux insultes qu'ils ont reçues, grâce à toutes les adversités qui leur ont été présentées. Et s'il n'y avait pas eu ces adversités, peut-être que ces personnes ne se seraient jamais sauvées. Rappelez-vous, ça, encore une fois, Sainte Marie-Madeleine, ben, si elle n'avait pas fait toutes ces bêtises de sa jeunesse, elle serait peut-être pas devenue une aussi grande sainte. Elle est devenue une très grande sainte aussi à cause, je dis pas grâce à ses péchés, mais à cause de ses péchés, parce que les gens qui ont beaucoup péché dans le passé, eh bien, vont devoir pratiquer plus l'humilité que des gens qui n'ont jamais péché. Et le bon Dieu a plus d'amour pour quelqu'un, un soldat, encore une fois, qui tombe souvent et qui se relève à chaque fois, pour un soldat qui tombe jamais. Le bon Dieu a plus d'amour pour un malade que quelqu'un qui n'est pas malade. Il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Sans Caïn, nous n'aurions pas eu Abel. Sans les persécuteurs, sans Néron et Dioclétien, on n'aurait pas eu tous les martyrs. Le bien sans épreuve ne pourrait être parfaitement bon, car il n'y aurait pas de purification. La société avec le mal est la purification des bons. Donc, les mauvais représentent en quelque sorte la meule sur laquelle je vais devoir aiguiser la vertu de patience. Dieu sait si c'est difficile pour les catholiques aujourd'hui de vivre avec cette contradiction continuelle. On est attaqué à longueur de temps par le monde moderne. C'est pour ça qu'il faut se couper de ce monde moderne. On le voit très bien aujourd'hui avec toute la dictature sanitaire, la panique des gens avec le Covid. Si les gens paniquaient autant avec l'idée de commettre un péché mortel, je vous assure qu'ils seraient tous des saints depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut pour vaincre le Covid? J'ai vu débrancher sa télévision, c'est tout. Débranchez votre télévision, arrêtez de regarder cet instrument de malheur et vous n'aurez plus peur du Covid. Vous voyez? Je suis sûr qu'il est beaucoup plus facile de conserver son âme en paix quand on n'a pas de télévision, quand on n'a pas de journaux et qu'on n'écoute pas la radio. Alors demandons, mes bien chers frères, à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Donc le bon Dieu a permis que nous passions par des épreuves terribles. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et je pense que le plus dur pour nous, c'est de voir que la persécution vient de ceux qui sont en principe donnés par Dieu pour nous guider vers le bon Dieu. Les plus grands persécuteurs de l'Église sont malheureusement les prêtres de l'Église de Vatican II. Le plus grand persécuteur de l'Église actuellement, il s'appelle Bergoglio, c'est absolument évident pour moi. Et donc les plus grands persécuteurs des catholiques de tradition sont malheureusement les prêtres de l'Église de Vatican II. C'est une preuve supplémentaire que cette Église de Vatican II n'a plus rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'Église catholique. Il ne faut pas se décourager. Le bon Dieu nous a prévenus. Il faut relire ces versets 12 à 19 qui sont quand même très, très importants. Relire ces versets 12 à 19 et se les appliquer. Parce que c'est exactement notre histoire. On mettra les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traînera devant les rois et le gouverneur à cause de mon nom. Et cela vous arrivera pour que vous rendiez témoignage. Rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit très bien, la dictature sanitaire actuelle, vous voyez, accepter ces choses nouvelles qu'on vous présente, et ces soi-disant ces thérapies géniques modernes, et vous verrez, vous aurez tout, on vous couvrira d'or, on vous donnera tout ce que vous voulez, acceptez de vous mouler dans le monde moderne. Et la réponse, elle a été donnée, je ne servirai pas. Il faut inverser le non serviam du démon, et prononcer cette même formule contre le démon lui-même. Non serviam, je ne servirai pas la dictature moderne, je ne servirai pas tous ces gens qui n'ont que haine à l'égard contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre son Église. Voilà, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Donc, si Dieu veut, la prochaine fois, nous continuerons avec le verset 20 du chapitre 21 de Saint-Luc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.